légitime défense ou détournement du droit international, supériorité du droit ou logique de la force. Depuis les frappes menées conjointement par Israël et les États-Unis contre des cibles en Iran, une question s'impose. Que dit réellement le droit international face à une telle situation ? Sujet hautement technique, souvent noyé dans le brouhaha des prises de position politiques et des accusations croisées, comment qualifier juridiquement ces bombardements en cours en Iran ? Pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Sialom. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc avocate spécialiste en droit international. Vous êtes intervenante devant les juridictions françaises, devant les instances onusiennes, devant la Cour pénale internationale. Et vous êtes également contributrice à la nouvelle revue politique sur ces questions. Je voudrais commencer par une première problématique. À chaque nouvelle séquence militaire entre Israël et l'Iran, on entend que le droit international est soit hypocrite, soit inopérant. Au fond, est-ce que, en l'espèce, le droit international sert à autre chose que commenter après coup les événements qui ont eu lieu ?
C'est une critique qu'on fait au droit international à la survenance de chaque crise. Le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre le droit international pour ce qu'il est. On attend de lui qu'il vienne régir les rapports entre les États, comme le droit national vient régir les rapports entre citoyens. Le problème, c'est que le droit international a pour objet les rapports entre des États souverains qui sont juridiquement égaux, bien que politiquement inégaux. Et donc, nécessairement, on a cette impression d'ineffectivité puisqu'il n'existe pas une instance supranationale qui viendrait le rendre totalement contraignant comme le pourraient faire les tribunaux en France. Donc, c'est une critique qu'on entend à la survenance de chaque crise, mais pour autant qui repose plus sur une mauvaise compréhension de ce qu'est le droit international qu'autre chose.
Et donc, c'est quoi la bonne compréhension du droit international ?
La bonne compréhension du droit international, c'est que c'est un ensemble de règles qui va permettre aux États de parler le même langage. C'est un droit qui a véritablement vu le jour après 1945, lorsqu'on a compris ce que pouvait impliquer son absence. Et donc, finalement, et c'est d'ailleurs le principe cardinal de la Charte des Nations Unies, c'est d'essayer au maximum de pacifier le règlement des différends. C'est-à-dire que le recours à la force n'est pas totalement prohibé, mais il doit être le dernier recours. Et surtout, le droit international est le langage de la légitimité. Bien évidemment, il ne peut pas empêcher la survenance des crises. Si un État compte s'affranchir du droit international, concrètement, pas grand-chose peut l'en empêcher. Mais le droit international n'a jamais eu pour vocation d'empêcher la survenance de ces crises, c'est simplement de les encadrer au maximum.
Mais alors, que vaut cet encadrement si une superpuissance comme la Russie, les États-Unis, il y a d'autres conflits qui sont en cours, peuvent très largement, au fond, s'abstenir de les respecter? Vous l'avez dit, il n'y a pas d'instance qui permet de sanctionner le respect de ces règles.
Ça reste le langage de la légitimité. Lorsqu'un État s'affranchit du droit international, nécessairement, on viendra questionner son action, puisqu'elle sera par nature illégitime. Et il existe à côté de ça des juridictions internationales, comme la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, qui peuvent rendre ce droit d'autant plus contraignant. Alors bien sûr, il y a des verrous procéduraux, parce qu'on ne peut pas imposer à un État des obligations auxquelles il n'a pas consenti. Et donc finalement, lorsqu'on prend ces deux aspects, plus politique, diplomatique, la légitimité, et ensuite ces juridictions, finalement le droit international, il reste présent au quotidien.
Et donc, cette légitimité qui fonctionne à travers le cadre du droit international, si ça ne passe pas par forcément des sanctions, ça passe par quoi ? L'opinion publique, des résolutions de la part des instances onusiennes, ça passe par quoi concrètement ?
Il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut prendre des résolutions et qui peut notamment décider d'embargo. C'est ce qu'on a pu voir pour plusieurs pays. Il y a eu notamment la question des embargos sur le Soudan. C'est un conflit d'ailleurs qui se déroule encore à l'heure où nous parlons. Il y a des embargos qui ont pu être votés, des embargos sur les armes. Et ce qui est assez intéressant, ça peut être que les juridictions nationales décident de sanctionner les violations de cet embargo. Ça a notamment été le cas de la BNP Paribas qui a permis au régime d'Omar el-Béchir d'accéder aux marchés financiers et donc d'accéder potentiellement d'acquérir des armes. Donc il y a cet aspect. Et puis indépendamment de ça, parce qu'on sait que le Conseil de sécurité des Nations Unies est un peu bloqué en raison du veto des cinq membres permanents, eh bien des sanctions peuvent être prises, par exemple au niveau de l'Union européenne, des sanctions économiques, la suspension d'accords commerciaux. Donc ce manque de légitimité, elle peut se traduire très concrètement par ce genre de mesures, et on l'a vu au niveau de l'Union européenne pour la guerre en Ukraine.
Est-ce que l'angle mort de l'efficacité, de ce langage de la légitimité, c'est la question des superpuissances? C'est-à-dire que faire un embargo contre un État qui est embarqué dans des relations multilatérales, qui est embarqué dans toutes sortes de relations économiques dont il est dépendant, ça peut être efficace. Qu'en est-il par exemple lorsqu'on parle d'une superpuissance comme les États-Unis?
On peut penser que les superpuissances, finalement, s'affranchissent complètement du droit international, mais pour moi, un élément qui est assez éclairant, c'est ce qui est survenu le 28 février au Conseil de sécurité des Nations Unies, après les frappes israélo-américaines sur l'Iran. Vous avez quand même la délégation américaine qui a fait l'effort, qui a pris le temps de replacer son action dans le cadre du droit international. Ils auraient bien pu dire, c'était des frappes préventives ou c'était des frappes que nous souhaitions faire, peu importe ce que vous en pensez. Pour autant, ils ont fait cet effort de replacer leur frappe dans le cadre du droit international. La Russie s'est retirée de bon nombre de conventions suite à la guerre en Ukraine. Mais quel est le sens de se retirer de ces conventions si elles sont complètement ineffectives? Ça dit quelque chose.
Alors, si on en revient sur l'action précise conjointement menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, est-ce que le cadre même de ce conflit n'implique pas des zones grises en matière de droit international? C'est-à-dire que si on prend un peu de recul, depuis la révolution iranienne de 1979, c'est-à-dire depuis l'accélération du conflit entre Israël et l'Iran, depuis la multiplication des proxys, des intermédiaires liés à l'Iran, est-ce que de manière intrinsèque, ce n'est pas un conflit qui est difficile à analyser du point de vue du droit international? Parce que vous avez à la fois de la légitime défense, des actions préventives, des gens qui sont indirectement liés à tel ou tel acteur de droit international. Qu'en est-il?
Il y aura nécessairement des manquements. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, que les obligations qu'on peut imposer aux États, c'est uniquement les obligations auxquelles ils ont consenti. Et ça amène à des situations qui sont assez difficiles à entendre. Par exemple, si on prend les massacres qui ont lieu en Iran au début de l'année 2026. Nécessairement, c'est difficile à entendre qu'un État ne pourrait pas intervenir pour aider le peuple iranien. Et donc, nécessairement, il paraîtra toujours insatisfaisant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit international ne peut pas s'appliquer indépendamment des rapports de puissance. Mmh. Et il faut comprendre que le droit international, ce n'est pas un droit qui est figé dans le marbre et qui n'a pas vocation à évoluer. Pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est concernant le droit des conflits armés. Les règles aujourd'hui qui viennent régir la conduite des hostilités ont été édictées en 1948, les conventions de Genève, qui viennent reprendre des coutumes de guerre antérieures. Entre la guerre en 1948 et la guerre aujourd'hui, il y a un monde. Le visage de la guerre a évolué. On a la participation d'acteurs non étatiques dans les hostilités, donc nécessairement, comment est-ce qu'on les appréhende? Et là, on touche à, finalement à ce qui est le cœur du droit international, c'est la place de l'interprétation, et qui est notamment permise par la doctrine. En réalité, les outils, nous les avons. La question, c'est comment interpréter ces outils à l'aune des défis actuels. Et un très bon exemple, c'est ce qui s'est passé au Kosovo en 1999, lorsqu'il y a eu une intervention militaire de l'OTAN. Tout le monde était d'accord pour dire qu'ils avaient totalement court-circuité le Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'ils sont intervenus en totale illicéité, qui veut dire en totale illégalité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu une évolution du droit international, la coutume a évolué, on a vu l'émergence du principe du R2P, la responsabilité de protéger. Et donc finalement, si les États voient qu'il y a des lacunes dans le droit international, il faut comprendre que la coutume internationale, donc qui n'est ni plus ni moins que la pratique auxquelles les États ont eux-mêmes décidé de se soumettre, les États ont la possibilité, face à des carences, de faire évoluer le droit international. Et peut-être c'est ce à quoi nous allons assister par rapport à ce qui s'est passé en Iran, comme ce qui s'est passé après les interventions au Kosovo.
Alors donc le droit international n'est pas figé dans le marbre. Du coup, quel est le point de départ en l'espèce sur ce qui s'est passé dans les récentes frappes en Iran? Est-ce que le point de départ, c'est l'argument iranien de l'interdiction de l'usage de la force armée en dehors de tout cadre légitime, ou au contraire, est-ce que le point de départ, c'est la légitime défense qui est invoquée, notamment par Israël?
Le point de départ, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai, c'est la légitime défense. Alors, pour analyser la question de la licéité des frappes israélo-américaines, il faut distinguer le israélo et l'américaine.
Parce il y a deux intérêts différents.
Exactement. Et on est dans deux intérêts à agir complètement différents. D'un côté, vous avez Israël qui subit des actes d'agression armée depuis des années, en tout cas à minima depuis le 7 octobre 2023, de la part de groupes non étatiques, les fameux proxys, le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, qui sont contrôlés par Téhéran. C'est un secret de Polichinelle. Nous savons très bien que ces groupes sont pilotés directement depuis l'Iran.
Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié ou établi par les instances internationales ?
Alors, il n'y a pas eu une résolution qui vient consacrer cela. En revanche, il y a énormément d'études qui ont été menées. Il y a notamment un article du Wall Street Journal qui est très éclairant, qui explique qu'assez peu de temps avant le 7 octobre, des centaines de combattants du Hamas s'entraînaient en Iran. Ce qui est quand même assez révélateur. On n'est pas simplement dans le financement, on est véritablement dans le contrôle. Il y a une matrice idéologique, il y a la fourniture d'armes, mais il y a bien sûr aussi la fourniture de financement. Et donc ces groupes-là réalisent des actes d'agression armée contre Israël. Aujourd'hui, alors effectivement, il y a des doctrines qui sont plus permissives que d'autres concernant la légitime défense. En revanche, ce qui est établi, et ça a été notamment établi par la Cour internationale de justice à de nombreuses reprises, lorsqu'un État, par le biais de groupes armés non étatiques sur lesquels il a un contrôle, ces groupes réalisent des actes d'agression armée contre un autre État, l'État agressé aura un droit de réplique, de légitime défense, contre l'État qui vient contrôler les agresseurs. Et pour Israël, on est dans ce cadre-là. Donc, la question de la licéité est plus facile à établir pour Israël dans la mesure où ils ont été victimes sur leur sol d'actes d'agression armée. Concernant les États-Unis, effectivement, ça peut être un peu plus délicat parce qu'ils doivent réussir à démontrer qu'il y avait la réalité d'une menace qui était fomentée depuis l'Iran contre les États-Unis ou les intérêts américains, mais plus que ça, qu'il y avait une imminence. Aujourd'hui, la notion d'imminence, c'est ce qui vient un peu déchirer la doctrine. Comment est-ce qu'on doit l'interpréter ? Il y a les tenants d'une interprétation stricte de l'imminence, c'est-à-dire on est le doigt sur la gâchette. Il y en a d'autres qui estiment que c'est une obligation qui est beaucoup trop périlleuse pour les imposer aux États et donc avec une interprétation beaucoup plus souple de l'imminence. Et donc finalement, pour les États-Unis, si jamais on veut établir la licéité de leurs actions, ils doivent démontrer cette imminence, ce que pour le moment, Washington n'a pas fait.
Quand les trois camps, que ce soit Israël, États-Unis, Iran, parlent tous le langage du droit, et notamment cette notion d'imminence, faut-il y voir, comme vous le disiez tout à l'heure, que le droit international imprime y compris l'usage de la forme, au contraire qu'on maquille cet usage sous des arguties juridiques, mais qui au fond ne servent qu'à employer la force à la fin.
Pour moi, on est dans les deux cas et ils ne sont pas si incompatibles que ça. Parce que cela vient quand même restreindre, encadrer l'usage de la force. On sait qu'il y a des armes, par exemple, qui sont prohibées, parce que la question de la prohibition, par exemple, des armes chimiques, ce ne sont pas dans les conventions de Genève, mais on l'intègre dans ce vaste corpus du droit des conflits armés. Donc, nécessairement, on y pense à deux fois avant de réaliser certaines opérations militaires, parce qu'on sait qu'on doit rentrer dans ce cadre-là. Mais on le voit bien avec l'Iran, il y a une instrumentalisation du droit international pour essayer de justifier ensuite leurs actions et notamment à l'encontre des pays du Golfe qui subissent de nombreux tirs de missiles et de drones. Donc en fait, la réponse à votre question, pour moi, on est dans ces deux cadres. Ils ne sont pas nécessairement incompatibles.
Du coup, sur la question notamment de l'interprétation et notamment de l'imminence, vous semblez quand même nous présenter un cadre où le droit international, au fond, n'a pas vocation à trancher définitivement ces sujets, mais à laisser des marges de manœuvre aux États, mais ce qui laisse du coup une grande part d'arbitraire.
C'est le problème. On pourrait penser que ces différences, ces questions d'interprétation seraient tranchées par la Cour internationale de justice parce que c'est l'organisation juridictionnelle rattachée aux Nations unies. Le problème, c'est que la Cour internationale de justice, elle est en réalité compétente dans moins de cas que ce dont on aurait besoin. Et donc finalement, il y a une place très importante qui est donnée à la doctrine. Vous prenez par exemple le droit des conflits armés en mer. Aujourd'hui, c'est totalement régi par la doctrine. Donc nécessairement, on pourrait penser qu'il y a une forme d'arbitraire parce qu'un État peut décider de se rallier à une interprétation plus ou moins souple. Ce qui est assez intéressant, par exemple, c'est que pour les pays anglo-saxons, comme les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne, ils ont une interprétation de la préemption qui est très, 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 très large, mais ce qui s'explique aussi par leurs histoires. C'est soutenu par une partie de la doctrine. Une partie de la doctrine estime que non, il faut vraiment qu'on encadre le plus strictement possible l'usage de la force. Ensuite, il y arrive des cas où, souvent, c'est bien après que la Cour internationale de justice tranche, mais nécessairement, pour beaucoup de questions aujourd'hui, ce n'est pas gravé dans le marbre. Il y a des interprétations doctrinales qui divergent. Et je pense sur la question de la préemption, de la prévention, sur tout cela, le temps que la Cour internationale de justice soit compétente, beaucoup de conflits, malheureusement, seront survenus.
On voit bien, notamment, cette fluidité dans le fait que, vous, votre point de départ, c'est celui de la légitime défense pour Israël. On voit bien que dans la classe politique, notamment à gauche, il y a des positions qui sont contraires. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la manière de régler ces différences d'interprétation? Vous dites aujourd'hui, voilà, il y a des instances, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une perspective d'évolution à l'avenir de cette manière de régler la doctrine ou, a priori, eu égard l'intensité des conflits, on va en rester un état assez stationnaire?
Ce qui, pour moi, permettrait un peu de trancher cette question, ce sera la pratique des États. Parce qu'il faut comprendre que la coutume internationale, c'est une source du droit. Alors forcément, quand on est un juriste de tradition civiliste comme en France, on a un peu du mal à l'entendre. En revanche, et c'est là on voit que le droit international est quand même un peu plus influencé par le droit de common law, où la place de la doctrine, de la jurisprudence et tout autre. Pour moi, en tout cas, la manière dont je l'interprète, ce sera aux États un peu de trancher, de savoir ce qu'on tolère. Et c'est pour ça que les positionnements politiques ne se sont pas fait attendre, dans quel camp on se place. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les États ne sont pas d'accord. Même au sein de la France, vous avez des politiques qui estiment que, on est dans le cadre d'une légitime défense totalement admise par le droit international. Vous en avez d'autres qui estiment, mais non, c'est totalement illicite. Faites attention, parce que si on commence à interpréter trop largement, on va avoir une guerre tous les quatre matins. Donc on voit bien d'ailleurs que ces tensions en doctrine, elles se voient au niveau des États. Peut-être un jour on arrivera à quelque chose de plus consensuel. Encore une fois, l'exemple du Kosovo, il y a eu un consensus sur la légitimité des opérations. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que licéité, légalité et légitimité, ça peut être des fois des synonymes et parfois des antonymes.
Si on en revient de manière plus serrée au conflit, avec le Hezbollah, les Houthis ou d'autres groupes soutenus par Téhéran, à partir de quel moment peut-on dire juridiquement que les actions qui sont menées sont bien celles de ces groupes ou bien alors de la maison mère, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est l'Iran? Qu'est-ce qui juridiquement permet de le déterminer?
Vous avez aujourd'hui deux positions. De toute façon, mes réponses ne sont jamais très tranchées parce que même des fois, les juges ne sont pas d'accord entre eux. Vous avez la position de la Cour internationale de justice qui vient vous dire, outre le contrôle effectif, il faut démontrer que l'État avait un contrôle dans l'opération armée. Si on prend l'exemple du Hezbollah, il faut démontrer pas seulement que Téhéran a un contrôle effectif sur ce groupe, mais si on prend par exemple les frappes qui ont eu lieu il y a quelques jours, que Téhéran avait un contrôle sur le Hezbollah dans la réalisation de ces frappes. Puis vous avez la position du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui a élaboré la thèse du contrôle global. C'est-à-dire que pour le TPY, si l'État a un contrôle de manière générale sur ce groupe, c'est suffisant pour imputer ses actions à l'État. La Cour internationale de justice a décidé d'écarter l'interprétation du TPY, mais il n'empêche que ces deux interprétations existent. Ce qui est sûr, il faut à minima un contrôle effectif sur le groupe, mais possiblement un contrôle sur les opérations militaires désignées.
On voit bien à quel point les relations entre Israël et le droit international se sont compliquées ces derniers mois, dans ces diverses interventions, notamment depuis le 7 octobre. C'est quoi l'avenir d'Israël dans son rapport au droit international? On voit à quel point, vis-à-vis de l'ONU, il y a eu beaucoup de crispations. On voit que la CPI a lancé des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Est-ce que Israël va aller ou non vers un usage de la force de plus en plus grand sans se soucier de ce que peuvent dire les instances internationales?
Vous avez raison de soulever le fait qu'il y a une défiance, je pense, de la société israélienne à l'égard des organisations internationales. Et on peut le comprendre à certains égards. Il y a un peu cette idée qu'Israël a voulu jouer le jeu des organisations internationales après la guerre des six jours, après la guerre de Kippour. Mais le sentiment, c'est que ça s'est un peu retourné contre elle. Et en plus, ce qu'il s'est passé, c'est qu'en 2013, lorsqu'il y a eu la création du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, il y a ce point numéro 7. Le point numéro 7, c'est un point permanent à l'ordre du jour au Conseil des droits de l'homme qui est relatif à Israël. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le Conseil des droits de l'homme se réunit, la question d'Israël sera systématiquement évoqué.
Est-ce que c'est ça qui explique le nombre de condamnations d'Israël vis-à-vis, par exemple, de Cuba, de la Corée du Nord, du Venezuela, aux Nations Unies ?
Ça l'explique en partie parce que c'est une question qui sera systématiquement évoquée et on n'a jamais vu d'équivalent. Même lorsqu'il y a eu la guerre en Syrie, qui a quand même battu son plein durant de nombreuses années, il n'y a jamais eu un point permanent inscrit à l'ordre du jour au Conseil des droits de l'homme concernant la Syrie. Et il y a une autre chose, c'est qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, que les Nations Unies, ce n'est pas le temps du droit international. Les Nations Unies, c'est une arène politique. Vous avez des États qui ont leurs intérêts propres, des intérêts régionaux. Et donc, nécessairement, lorsqu'ils vont voter dans le sens d'une résolution ou d'une autre, ce n'est pas parce que c'est conforme au droit international, c'est parce que c'est dans leur intérêt. Et aujourd'hui, le principal groupe de votants aux Nations Unies, c'est à peu près une soixantaine d'États, c'est l'Organisation de coopération islamique. C'est une soixantaine d'États qui a un positionnement à minima pro-palestinien, mais je pense qu'on peut dire anti-israélien. C'est notamment eux qui ont impulsé la création de la fameuse commission d'enquête aux Nations Unies sur Israël et les territoires palestiniens dits occupés. Et donc nécessairement, quand le principal groupe de votants a dans ses statuts la question palestinienne qui est centrale, ça amène une hyper-focalisation sur la question israélienne. Et donc, nécessairement, quand les Israéliens voient ça, ils disent « mais il y a un biais anti-israélien ». Mais ça s'explique, en fait, par même l'essence des Nations Unies, son fonctionnement. Pour revenir sur votre question, donc sur la question des mandats d'arrêt et peut-être l'avenir, pour moi, ce qui est assez révélateur, c'est que Israël, qui est donc un positionnement plutôt critique vis-à-vis de ses organisations, essaie quand même de jouer le jeu. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Lorsqu'il y a eu la guerre des 12 jours, il y a un document qui a été communiqué au Conseil de sécurité des Nations Unies pour expliquer les fondements légaux en droit international de ces opérations. Il y a quand même eu un travail, il y a eu des équipes de juristes mobilisées pour expliquer pourquoi ces actions s'inscrivent dans le cadre du droit international. Actuellement, donc, parce qu'il y a la procédure à la Cour internationale de justice initiée par l'Afrique du Sud, Israël a produit un mémoire colossal, mais vraiment, on est à peu près à 1000 pages pour démonter point par point les arguments de l'Afrique du Sud dans son mémoire. C'est quand même un travail phénoménal qui a été accompli.
Est-ce que c'est la démonstration de ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que malgré la force et malgré les réticences, le droit international continue à faire ses effets?
Exactement, ça reste encore une fois le langage de la légitimité. Et pour justifier du bien fondé de ces actions, on se place dans le cadre du droit international. Israël aurait très bien pu décider que finalement, cette action à la Cour internationale de justice, elle se passerait sans elle, parce que de toute façon, c'est une mascarade, tout le monde est contre Israël, et donc ça ne sert à rien. Ils ont produit ce mémoire. Plus de 1000 pages. Et même à la Cour pénale internationale, parce que pour rappel, Israël n'a pas ratifié le statut de Rome. Ce qui veut dire qu'Israël n'est pas partie à la Cour pénale internationale. Après l'émission des mandats d'arrêt qui ont visé donc Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, ils ont quand même produit des mémoires, ils ont usé de voies de recours pour contester ces mandats. Ça dit quelque chose, c'est-à-dire même une instance qui n'est pas reconnue par Israël, finalement, ils vont jouer le jeu, ils vont utiliser les voies de recours, ils vont faire valoir des arguments. Ça démontre bien, outre le fait que ces instances existent et elles ont quand même un certain pouvoir, c'est que Israël ne s'est pas non plus totalement retiré finalement des instances internationales et tant bien que mal en tout cas, essaie d'expliquer toujours avec le langage du droit international le bien fondé de ses actions.
J'aurais une dernière question. Votre propos présente quand même un cadre où au fond, le but du droit international n'a jamais été d'évacuer la force. Est-ce qu'au fond, le discours qu'on entend, que ce soit sur l'Iran, que ce soit sur l'Ukraine, qui consiste à dire que nous revenons à un temps de la force, au fond, c'est faux, nous avons toujours été dans le temps de la force.
Tout à fait. Depuis 1945, il y a de nombreuses crises qui sont survenues. Malheureusement, de nombreuses guerres se sont déroulées. C'est un droit qui s'adapte aussi à son temps. C'est un droit qui est nécessaire parce qu'il faut se rappeler que le monde sans le droit international, c'est le monde avant 1945. C'est ce qu'il faut garder en tête, et que le droit international, ces organisations internationales, même imparfaites, il ne s'agit pas d'évacuer toute critique, il faut pouvoir critiquer ces institutions pour pouvoir les réformer, avoir une lecture critique du droit international. Ces instances n'en demeurent pas moins essentielles et nécessaires.
On rappelle donc que vous êtes avocate spécialisée en droit international. On peut suivre vos publications à la fois à la Nouvelle Revue Politique, vous intervenez dans le débat public, à France Info, dans le Figaro, et également vous publiez régulièrement pour faire de la pédagogie sur votre compte X. Merci Sarah Cialom d'être venue.
Merci à vous.